La semaine débutait avec la condamnation à 90 ans de prison du chef spirituel du plus grand parti islamiste du Bangladesh pour des faits remontant à l'époque de la lutte pour l'indépendance du pays contre le Pakistan dans les années 70. Ghulam Azam, 90 ans, était à l'époque chef du parti du Jamaat-e-Islami. La sentence, c'est celle du Tribunal international des crimes, un tribunal contesté et malgré son nom, seulement national. Jérémy Caudron, politologue spécialiste du Bangladesh, nous expliquait que ce tribunal pouvait être perçu comme un outil du gouvernement contre le parti islamiste à la conquête du pouvoir.
La justice a une certaine indépendance au Bangladesh, je dirais le système judiciaire habituel, malgré évidemment tout un ensemble de pratiques de corruption qui sont très répandues. Mais cela dit, ce tribunal, c'est réellement une institution qui a été créée ex nihilo lors de l'arrivée au pouvoir de la Wamili. Donc on peut parler en cela d'un instrument politique d'éviction des islamistes.
Et mercredi, on célébrait la journée mondiale de la justice internationale, une journée pour commémorer l'adoption du statut de Rome, traité fondateur de la Cour pénale internationale, qui rappelle à tous les États s'engageant pour la justice qu'ils doivent garantir le soutien continu au système de justice internationale créé par ce statut de Rome. La CPI est une organisation internationale indépendante, dynamique, qui compte aujourd'hui 122 États parties. Elle a cependant aussi des limites. Nous en parlions avec Montserrat Carboni, représentante permanente de la FIDH, auprès de la Cour pénale internationale.
La CPI est une cour très réelle, donc elle n'est plus une utopie. Elle marche, il y a des procédures qui marchent, il y a des enquêtes qui se prennent. Évidemment, il y a des défis, comme toute organisation neuve. C'est une idée très neuve aussi, dans un monde qui, normalement, avait donné de l'impunité à ceux qui ont le plus de pouvoir. Alors, à ce moment-là, c'est vrai que la CPI a vraiment, je dirais, a vraiment changé la façon dont on pense sur la justice vis-à-vis des crimes les plus graves pour imposer une idée que même ceux qui ont le plus de pouvoir doivent faire face à la justice, ils vont commettre des crimes de génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité.
Les combats dans l'est de la République démocratique du Congo continuaient aussi cette semaine, à Goma notamment. Des combats évoqués lors de la conférence des évêques d'Afrique et de Madagascar, avec à la clé un appel à l'arrêt de la violence et à l'instauration de la paix, comme nous l'expliquait le porte-parole de la conférence épiscopale de RDC, le père Léonard Santédi.
Il y a eu une reprise de guerre au nord Kivu, des paroisses ont été pillées, des centres de santé, des personnes ont été enlevées. Et c'est dans ce sens que les évêques ont lancé un appel vibrant. C'est un grand défi pour nous, cette reprise de guerre. Et nous espérons qu'avec cet appel, ceux qui apportent une aide aux groupes armés pourront éventuellement écouter cet appel. Et c'est aussi notre prière pour que le Seigneur convertisse les cœurs de ceux qui font la guerre, de ceux qui la planifient et de ce qu'il exécute sur le terrain.
Et la Guinée-Conakry restait elle aussi d'actualité. Des violences interethniques entre villageois Konyanké et Guerdze ont fait des dizaines de morts. Ces violences ne sont pas étonnantes en raison de la fragilité de cette région excentrée du pays. Ce que nous expliquait Michel Galli, spécialiste des conflits en Afrique de l'Ouest.
C'est la Guinée forestière et c'est une région excentrée par rapport à la capitale et surtout qui est très proche du Libéria et de la Côte d'Ivoire. Donc il y a longtemps qu'il y a d'une part des affrontements entre autochtones guerzés et puis, disons, migrants konyankais, hein, deux ethnies en quelque sorte guinéennes, mais en même temps les événements du passé, hein, de Côte d'Ivoire et du Libéria retentissent sur ce qui vient de se passer.
En Syrie, les combats se poursuivaient depuis le début des violences en mars 2011. Ce sont bien près de 15 000 enfants qui sont morts, selon des chiffres d'un responsable de la chaîne de l'Espoir, une ONG spécialisée dans les soins aux enfants démunis. Des enfants souvent la cible de tireurs embusqués ou qui servent de boucliers humains. Certains garçons d'une dizaine d'années sont aussi utilisés par des groupes armés comme combattants ou porteurs d'eau, quand d'autres sont violés pour obtenir des informations. La situation est quelque peu différente à Homs, une ville à l'ouest du pays où vit le père Ziad Hilal, très engagé auprès des enfants. Il prépare avec eux l'avenir du pays.
Il faut travailler avec les enfants pour surmonter la peur et ne pas être perdus dans leurs sentiments, dans leur avenir, dans ce qu'ils pensent. Surtout qu'ils sont très faibles parce qu'ils n'ont pas le moyen de se protéger. On a fait quelque chose il y a 2 mois avec les enfants. On a inventé ce qu'on s'appelle des banques des rêves. Chaque enfant, il peut ou dessiner ou écrire ce qu'il souhaite, ce qu'il rêve pour l'avenir.
Asphyxiée par des pertes économiques monumentales, la ville américaine de Detroit s'est déclarée cette semaine en faillite, dernier acte de la lente agonie de Motor City. La dette accumulée par la ville est vertigineuse, plus de 18 milliards de dollars. Elle devient ainsi la plus grande mégalopole du pays à se mettre en faillite. Detroit a perdu la moitié de sa population en 60 ans. La ville offre désormais un paysage de désolation. C'est ce que nous expliquait François Durpère, historien et spécialiste du pays.
Il faut essayer de s'imaginer, pour ceux qui ne la connaissent pas, le paysage de Detroit. C'est un paysage de ruines urbaines. C'est un paysage de taudis, de terrains vagues. L'une des conséquences de cette banqueroute, eh bien, c'est que probablement la ville de Détroit va devoir vendre une partie de son patrimoine artistique et en particulier les Van Gogh, les Degas et les Caravages de l'Institute of Art.